Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Bonjour et merci de m'accueillir.
Alors pour commencer, Brice Gaillard, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours personnel et politique ?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis militant du Parti Socialiste depuis mes 18 ans. Donc, ça commence à faire désormais quelques années. Donc, je suis originaire du sud-ouest des Pyrénées-Atlantiques, plus précisément d'une ville de 10 000 habitants qui s'appelle Orthès, où j'ai adhéré au Parti Socialiste donc à mes 18 ans. Et puis après, ben, les hasards de la vie, les études, les occupations professionnelles font que je me suis désormais stabilisé dans les Hauts-de-Seine depuis 5 années environ. Voilà, je continue à militer. Petit à petit, j'ai souhaité prendre des responsabilités dans le parti parce que je pense qu'il faut tous mettre la main à la pâte pour porter nos combats, porter nos valeurs et c'est ce que je m'emploie à faire au quotidien.
Et vous étiez candidat aux élections législatives lors des dernières législatives avec l'étiquette NUPES.
Tout à fait, j'étais candidat sur la 13e circonscription des Hauts-de-Seine qui est composée donc d'Antony, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry et Sceaux, où malheureusement je n'ai pas pu l'emporter, mais j'ai réalisé un score de 41% environ au second tour, dans le cadre d'une union qui a été très dynamique et dans laquelle je crois pour l'avenir, parce que c'est la première fois depuis très longtemps que, sur cette circonscription, mais aussi à l'échelle du département, les formations de la NUPES ont réussi à travailler ensemble. Et je trouve que c'est une première pierre à un édifice qui est important pour préparer l'avenir dans l'ensemble des territoires des Hauts-de-Seine.
Alors Brice Gaillard, dimanche 16 octobre, le Parti Socialiste et les autres partis de gauche appellent à une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Ce sera un des temps forts de cette rentrée politique pour la gauche ?
Tout à fait, ce sera l'un des temps forts. On a eu une séquence syndicale dans un premier temps. Là, on va avoir une séquence associant à la fois les syndicats, les associations de la société civile et les partis politiques pour envoyer un message clair et fort au gouvernement. La situation ne va pas, il faut une inflexion de la politique gouvernementale. On sent bien que le gouvernement ne le souhaite pas, mais c'est l'occasion aussi de lui montrer une mobilisation populaire du peuple de gauche et plus largement d'ailleurs des Françaises et des Français pour réorienter la politique qui est conduite.
C'est la raison pour laquelle cette manifestation a lieu un dimanche et non pas en semaine, comme pour les défilés des syndicats.
Tout à fait, puisque effectivement une manifestation le dimanche permet à l'ensemble de la population, en tout cas le plus grand nombre de la population, puisqu'on sait très bien qu'on travaille moins le dimanche qu'en semaine, d'y participer. Et voilà, nous on compte vraiment sur une mobilisation citoyenne, pas seulement des militants associatifs, syndicaux et politiques, mais une mobilisation de l'ensemble de nos concitoyens qui contestent la politique d'austérité et la politique de classe, disons-le, conduite aujourd'hui par Emmanuel Macron.
Est-ce que cette marche sera totalement pacifique, puisque Olivier Faure a rappelé à l'ordre Jean-Luc Mélenchon, qui a comparé cette manifestation à la Révolution française. Il faut rappeler que c'est une marche à l'origine organisée par la France insoumise.
Alors, c'est une marche qui est organisée dans le cadre de la NUPES, donc qui associe 6 partis politiques et, vous l'avez vu, un nombre extrêmement conséquent d'associations et de syndicats. Je ne vais pas commenter les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui sont regrettables. On peut tous s'accorder là-dessus. Moi, je crois, en tant que responsable départemental du Parti Socialiste, qu'il nous faut aujourd'hui une forme de radicalité dans les propositions politiques que nous portons, mais que cette radicalité-là ne doit pas faire l'objet, je dirais, de méthodes d'action. Donc oui, la manifestation, en ce qui nous concerne, sera pleinement pacifique. Il n'y a pas de raison de considérer qu'il y aura des débordements à cette occasion.
Alors, la NUPES, c'est un accord électoral qui a permis finalement à la gauche d'avoir un score honorable aux élections législatives. Et cette marche, c'est la suite de la NUPES, c'est finalement la première fois que les partis politiques manifestent ensemble. C'est quand même un événement politique aussi à ce titre.
Alors, tout à fait, à ce titre, bon, ça faisait longtemps, enfin, les partis politiques de gauche manifestent régulièrement ensemble, il faut quand même le rappeler, je pense notamment au 1er mai, où tous les ans, l'ensemble des partis politiques participent. Là où vous avez raison, c'est que c'est un événement politique de rentrée, à la suite de cet accord électoral, et j'insiste là-dessus, politique, programmatique, qu'a été la NUPES lors des élections législatives. Donc c'est l'une des suites, je rappelle que ce n'est pas la seule, nous avons aussi le combat pour la taxation des superprofits qui nous réunit beaucoup. Dans quelques jours, désormais, nous aurons la réponse du Conseil constitutionnel à cet égard. Mais oui, la NUPES a vocation à perdurer, a vocation à proposer des actions concertées entre les formations politiques de gauche. Et c'est très bien.
La NUPES existe au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut imaginer que dans les mois qui viennent, de tels accords aient lieu, par exemple, au sein du Conseil régional d'Île-de-France, au sein du département des Hauts-de-Seine, où vous êtes dans l'opposition? Est-ce qu'on peut imaginer ce type d'accord aussi au niveau local?
Alors, non seulement on peut l'imaginer, mais à titre personnel, moi j'y suis extrêmement favorable. Nous sommes dans un territoire particulier, les Hauts-de-Seine, où on le sait, le poids de la droite est extrêmement conséquent. Moi, je crois que pour porter des alternatives crédibles pour nos concitoyens, vers du mieux vivre, vers plus de solidarité, vers une transition environnementale réelle, il nous faut travailler dans le cadre de l'Union de la gauche. Ça ne veut pas dire tout uniformisé. Nous avons chacune et chacun nos points forts et par ailleurs nos faiblesses, nos spécificités. Mais ce que l'on constate avec la NUPES, c'est que quand on travaille ensemble, les résultats électoraux suivent. Et moi, je veux m'arrêter sur les législatives et rappeler que sur les 13 circonscriptions des Hauts-de-Seine, nous avons été au second tour 12 fois. C'est la première fois depuis très longtemps que la gauche unie performe, si vous me passez l'expression, autant à l'occasion d'élections législatives. En tout cas, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé. Et en cela, c'est un signe d'espoir et nous devons continuer dans cette voie.
On peut imaginer aussi que par la suite, pour d'autres élections nationales, il y ait à nouveau ce type d'accord?
Il y aura en tout cas des discussions, mais elles sont très légitimes. Ce n'est un secret pour personne, puisque vos confrères, notamment de Figaro, s'en sont fait l'écho. Il y aura très vraisemblablement, et c'est légitime encore une fois, des discussions pour les élections européennes, par exemple. Ensuite, qu'il y ait des discussions, c'est une chose. Qu'il y ait un accord sur des bases programmatiques, c'en est une autre. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le premier secrétaire du Parti socialiste l'a d'ailleurs dit. Nous sommes favorables à un dialogue. Ensuite, il faut que chacune des composantes de la NUP, trouve, je dirais, son compte dans un accord électoral. Mais le plus important déjà aujourd'hui, et on peut s'en réjouir, c'est que nous arrivons à dialoguer très régulièrement ensemble.
Et Brice Gaillard, un nouveau chèque énergie exceptionnel d'un montant de 100 à 200 euros sera versé à 40% des foyers les plus modestes d'ici la fin de l'année. Le bouclier tarifaire a été reconduit. Est-ce que ces mesures prises par le gouvernement pour faire face à l'inflation des prix de l'énergie vous paraissent suffisantes?
Alors très clairement, non. Voilà. Enfin, je suis très content pour les personnes qui vont toucher ces chèques. Mais vous savez, la politique du chèque, elle a ses limites. Et elle ne masque pas, les choix politiques qui sont faits par le gouvernement. Je vais prendre un chiffre qui est très très précis, mais qui est extrêmement important à mes yeux. Vous le savez, nous sommes rentrés dans les débats budgétaires qui vont donc s'appliquer à partir de l'année prochaine. Mais nous sommes en première année de quinquennat. Il y a donc une loi de programmation qui va établir la trajectoire, pour les finances de l'État pour les 5 ans à venir. La conclusion, elle est très simple. En 10 ans d'Emmanuel Macron, ce sont 372 milliards d'euros d'impôts en moins qui seront collectés par l'État et donc utilisés pour conduire des politiques publiques. Ça nous fait donc une moyenne de 37 milliards de recettes en moins par an sur 10 ans. C'est 140% du budget du ministère de l'Écologie. Alors moi, je veux bien qu'on m'explique que nous n'avons pas les recettes pour conduire des politiques publiques en France, mais la réalité, c'est qu'il y a un choix du gouvernement qui est austéritaire, qui est libéral, et c'est pas en donnant des espèces de chèques, des miettes, que l'on traite les problématiques sociales et environnementales du pays.
Il faut réhabiliter l'impôt. Pour vous, l'impôt, ça n'est pas un gros mot, Brice Gaillard.
J'en suis convaincu. Vous savez, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a dans ses objectifs la baisse du taux de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire le fait que le niveau d'impôt par rapport au produit intérieur brut diminue avec le temps. Je trouve que c'est d'une bêtise, mais sans nom. L'objectif d'une politique publique, ce n'est pas nécessairement de payer moins d'impôts. L'objectif d'une politique publique, c'est de répondre aux besoins de nos concitoyens. Et en période de crise, puisque le pays est traversé par des crises depuis désormais 5 années au minimum, nous avons besoin d'une puissance publique forte qui soit capable d'agir. Et qu'on le veuille ou non, ça passe par de l'impôt. L'impôt, il est bénéfique au vivre ensemble.
Brice Gaillard, vous qui militez dans les Hauts-de-Seine, est-ce que vous constatez les premières conséquences de cette inflation sur les personnes les plus fragiles de votre département? Est-ce que vous voyez des personnes basculer dans la pauvreté?
Tout à fait, on le voit au quotidien. Dans chacune de nos sections, on a des remontées dramatiques de personnes qui en sont désormais réduites à faire des arbitrages, à savoir, on le voit en particulier cette semaine, c'est soit faire le plein, soit nourrir ses enfants. La réalité, c'est celle-ci aujourd'hui, parce que le gouvernement fait le choix de ne pas aider les plus fragiles et de concentrer les moyens financiers sur les plus riches et les grandes entreprises. Je vais le dire en un mot, cette situation, humainement, elle est inadmissible. Nous ne sommes même plus dans le champ politique du droit tout gauche. Avant même cela, c'est humainement inadmissible de voir que le pays s'enlise comme ça dans la précarité, avec des ruptures de plus en plus violentes et une inaction totale du gouvernement.
Il y a 4 ans, en octobre 2018, éclatait le mouvement des Gilets jaunes. La colère actuelle des Français, Brice Gaillard, pourrait déboucher sur une nouvelle révolte de ce type ?
Je ne suis pas devin, je ne peux pas vous dire quelle forme prendrait d'ailleurs une nouvelle révolte, puisqu'il y a aussi des questions de forme, de mouvement spontané qui se structure petit à petit. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les voyants sont au rouge. Aujourd'hui, la colère des Françaises et des Français, elle est réelle, elle est profonde et elle est légitime. Donc oui, à force, je dirais, de ne pas entendre les messages qui sont passés par les oppositions, le gouvernement Macron, aujourd'hui, s'expose à ce que des revendications plus spontanées et parfois même peut-être plus virulentes émergent.
Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, à l'initiative d'Olivier Faure, les députés de la NUPES ont déposé une proposition de loi pour l'organisation d'un référendum sur la taxation des super-profits, un texte signé par 242 parlementaires. Le Conseil constitutionnel a 1 mois pour se prononcer sur sa recevabilité. Si tout se passe bien, le PS appellera les Français à se saisir de ce référendum d'initiative partagée ?
Tout à fait. Le Conseil constitutionnel doit répondre avant le 25 octobre, c'est-à-dire dans quelques jours. Dès lors qu'il l'aura fait, nous nous mobiliserons sur le terrain jour après jour et nous aurons 9 mois pour aller chercher 4,8 millions de signatures de nos concitoyens. Nous le ferons en tant que Parti Socialiste, mais nous le ferons également dans le cadre de la NUPES avec l'ensemble de nos partenaires, parce que nous croyons qu'il est possible d'engager un bras de fer là-dessus avec le gouvernement pour infléchir sa politique. Les super-profits, c'est quelque chose qui choque, et c'est légitime, l'opinion publique, et nous avons trouvé un moyen de pouvoir peser sur le débat. J'en suis très heureux et nous nous mobiliserons pleinement dès que le Conseil constitutionnel nous aura rendu son avis.
Vous aviez tenté de le faire avec la privatisation d'Aéroports de Paris. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ?
La privatisation d'Aéroports de Paris, c'était tout d'abord quelque chose d'assez novateur, puisque vous savez, le RIP, le référendum d'initiative partagée, c'est dans la Constitution depuis 2008. Mais c'était la première fois en 2018 que nous l'utilisions. Donc il y avait déjà un caractère assez novateur. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel lui-même avait jugé que le gouvernement n'avait pas vraiment mis les moyens suffisants pour que le débat public soit serein à ce moment-là. On s'en rappelle, le site internet qui était catastrophique, qui ne permettait pas, il fallait se reconnecter plusieurs fois pour pouvoir voter. Bon, il y avait déjà cette explication-là. L'autre explication-là, on a quand même fait 1,2 million de signatures, et il faut le rappeler, c'est pas rien, sur un sujet qui est éminemment francilien et qui ne concernait pas, a priori, l'intégralité des territoires et de nos concitoyens. Là, on a vraiment quelque chose de très fort avec une taxation sur les super-profits qui concerne l'intégralité de nos concitoyens.
Brice Gaillard, l'Assemblée nationale a adopté la réforme des règles de l'assurance chômage. Il s'agit de moduler l'assurance chômage selon la conjoncture pour inciter les chômeurs à reprendre un emploi. C'est une réforme qui vous semble injuste ?
Parfaitement, c'est parfaitement injuste. Encore une fois, la politique, ce sont des choix. En l'occurrence, je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas d'un côté supprimer des impôts pour les plus riches et pour les grandes entreprises, et de l'autre dire aux petits épargnants, aux classes moyennes, aux classes populaires, vous allez payer un petit peu plus. Donc oui, on est, je dirais, Emmanuel Macron, vous savez, nous a dit qu'il était ni droite ni gauche au début. La réalité, c'est que c'est un libéral pur, quelqu'un qui conduit une politique de classe, de droite, injuste, et c'en est un nouvel exemple. On va fragiliser les chômeurs, comme demain il tentera de fragiliser les retraités pour faire des économies au bénéfice des puissants. Et effectivement, on conteste cela complètement.
Elisabeth Borne reçoit cette semaine les dirigeants des partis politiques pour parler des retraites. Le PS s'opposera à une réforme qui prévoit un départ à 65 ans. Pour vous, c'est une ligne rouge absolue ?
Tout à fait. C'est une ligne rouge absolue et nous ne rentrerons même pas, je dirais, dans des discussions. On n'est pas là pour savoir si c'est 64 ou 65 ans. La réalité, c'est que vous avez un organisme très sérieux, le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui vous explique qu'il n'y a pas de besoin financier particulier, qu'en tout cas, il n'y a pas de nécessité de réformer les retraites. Donc, l'argument du gouvernement qui consiste à dire nous devons dégager des recettes, baisser les dépenses pour équilibrer le système, c'est un mensonge politique. La réalité, c'est celle-ci. Nous n'avons pas besoin de réformer les retraites d'un point de vue financier. Si le gouvernement le fait, c'est par pure idéologie et pour, encore une fois, alléger les cotisations patronales, notamment, et au bénéfice, encore une fois, des entreprises et des plus riches.
Mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de réformes qui sont adoptées par des gouvernements de droite. Certaines réformes ont été adoptées aussi par le Parti Socialiste, la réforme El Khomri. Et finalement, ça passe, ça finit par passer.
Sans doute que la population, à un moment, s'habitue. Sauf que, si vous voulez, il y a quand même une réalité, c'est que à force, la corde, elle se casse. Sous le quinquennat Hollande, j'y reviendrai pas là-dessus, je pense que des erreurs, effectivement, ont été faites, qu'on a été trop loin, notamment, je pense, à la loi travail. Tout n'est sans doute pas jeté dans cette loi, mais il y avait, effectivement, certaines mesures où nous avons sans doute été trop loin, parce que nous avons hérité, en 2012, d'une situation économique qui était extrêmement défavorable. Ça ne légitime pas la chose pour autant sur le moyen terme. Néanmoins, vous savez, il y a de la rationalisation et il y a de l'excès de rationalisation. Aujourd'hui, le gouvernement est très clairement dans l'excès. Et c'est la même chose, si vous me permettez d'évoquer ce sujet, qui est extrêmement important pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, les collectivités territoriales, ça fait 20 ans qu'on leur dit il faut réduire vos dépenses, il faut rationaliser vos dépenses. Et je vais vous dire, au début, c'était vrai. Les collectivités ont connu une crise de croissance qui font qu'il y avait sans doute des dépenses un petit peu inutiles ou en tout cas surévaluées. Après 20 ans de rationalisation, la réalité, c'est que ce n'est plus le cas et qu'on n'est plus dans des démarches qui visent à optimiser. On est dans de la coupe budgétaire, dans de la coupe sociale. Et à un moment, ça cassera parce que ce ne sera plus possible de fonctionner comme ça.
Avec également la difficulté pour les collectivités locales de faire face à des dépenses nouvelles liées aux factures énergétiques. Vous avez peut-être entendu le maire de Neuilly-sur-Marne lancer un appel. Il dénonce le racket des fournisseurs d'énergie qui présentent finalement des factures multipliées par 30. C'est des factures totalement impossibles à payer.
Alors effectivement, je ne vais pas rentrer dans le débat de si c'est x 30, x 5, x 10, parce qu'il y a des sources différentes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ces hausses de dépenses, vous parlez de l'énergie, mais il y a aussi les denrées alimentaires pour les cantines scolaires notamment, ça fait que les budgets des collectivités ne peuvent plus être bouclés. Et que le gouvernement a répondu en juillet une première fois, trop peu. Ça concerne environ entre 5 et 8 000 communes sur les 35 000, et trop tard, puisque les aides seront versées en 2023. Aujourd'hui, les dotations ne sont même pas alignées sur l'inflation, ce qui veut dire que les collectivités vont continuer à perdre de l'argent. Et effectivement, aujourd'hui, c'est l'un des enjeux des débats budgétaires qu'on va avoir à la fin de l'année. Comment sauver nos collectivités territoriales? Et le gouvernement n'apporte pas le début d'une réponse à cette question.
Alors, vous êtes le premier fédéral socialiste des Hauts-de-Seine. Comment se porte aujourd'hui le Parti Socialiste, Brice Gaillard? Vous avez subi plusieurs séquences assez mauvaises, la candidature d'Anne Hidalgo, ensuite il y a eu l'accord de la NUPES. Comment se porte le Parti Socialiste?
Alors, pour préciser, effectivement, nous avons connu un score décevant aux élections présidentielles, mais je ne considère pas que la séquence de la NUPES soit une séquence décevante ou mauvaise, comme vous l'avez dit. Au contraire, c'est aussi l'un des éléments qui me permet d'être optimiste pour l'avenir. Le Parti Socialiste dans notre département, il est en restructuration, c'est une réalité, comme tous les partis d'ailleurs, parce que le paysage politique évolue très vite. Moi, je suis optimiste parce que j'ai dans chaque ville de notre département des sections locales au travail, avec des militants motivés, ambitieux, qui préparent l'avenir avec justement beaucoup d'ambition. Et moi, je ne suis pas particulièrement inquiet pour l'avenir. Au contraire, je suis très optimiste.
Merci, Brice Gaillard. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire fédéral socialiste des Hauts-de-Seine. Bonsoir.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.